ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. L'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Entre Femmes, Radio Zone. On ne voit pas la lune parce qu'il y a beaucoup trop de nuages sur le bassin lémanique. Mais rêvez à un ciel pur étoilé avec une grosse lune. En tout cas, si vous ne la voyez pas, vous pouvez toujours allumer votre radio sur 93.8 MHz et la lune sera dans vos oreilles. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, le bulletin de nouvelles de la pleine lune, suivi des coups de cœur de Marjolaine qui vous prépare un cœur immense pour cette année 1996. Encore à la suite, c'est la surprise, puisque 1996 sera l'année de toutes les surprises. Palestine se prépare pour ses premières élections. C'est la première fois que dans l'histoire, le peuple palestinien pourra voter. Portrait d'une candidate, Samia Khalil, grand-mère. Elle a 72 ans, on l'appelle la mère Khalil. C'est une des challengers de Yasser Arafat au poste de premier président, première présidente peut-être palestinien de l'histoire. La vieille dame a peu de chances de l'emporter, mais elle s'en moque. Elle nous dit « Quand j'ai décidé de me présenter, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais gagner ou pas. Je veux seulement aider mon peuple de tout mon cœur. » Militante de la première heure, Samia Khalil est passée 6 fois dans les prisons israéliennes en 28 ans d'occupation. Cette féministe de Ramallah doit sa popularité au très bon travail mené depuis 30 ans par une association caritative. Pourtant, quand on demande à Samia Khalil ce qui devrait pousser les Palestiniens à voter pour elle, la vieille femme s'étonne. « Je ne demande pas aux gens de voter pour moi. Ils feront ce qu'ils voudront. » Mieux, la Palestinienne répète sans cesse que sa candidature ne doit pas être perçue comme une atteinte à Yasser Arafat, l'actuel chef de l'autorité palestinienne. Je ne me présente pas contre lui. Il est vrai que la candidate lutte depuis de longues années au sein de l'OLP d'Arafat et qu'elle est membre du Conseil national palestinien, le Parlement en exil, depuis 1967. En fait, Samia Khalil se présente surtout sur un programme qui critique très fortement les accords d'Oslo auxquels elle est farouchement opposée. Je suis pour une paix juste, lance telle, les accords d'autonomie signés avec Israël n'apporteront pas la souveraineté que les Palestiniens attendent. 3 points résument le programme de Samia Khalil, libération de Jérusalem, retour des prisonniers et des réfugiés, démantèlement des colonies. En France, pour la première fois, un tribunal condamne à des peines de prison ferme des militants anti-avortement. Ce s'est passé au tribunal de Valenciennes. Il s'agit principalement de la condamnation de Xavier Dousseau, directeur adjoint de l'hôpital de Valenciennes, qui a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis et 20 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Le 16 octobre de l'année dernière, il avait conduit au petit matin 9 personnes jusqu'au bloc opératoire du service d'orthogénie de l'hôpital dans lequel il travaillait. Là, les manifestants s'étaient enchaînés avec des antivols de moto, empêchant le service de fonctionner jusqu'à ce que les sapeurs-pompiers parviennent à les évacuer. 7 rendez-vous et 3 interruptions de grossesse avaient dû être différés et le directeur de l'hôpital avait porté plainte. Parmi les parties civiles, l'Union des femmes françaises s'est vu attribuer 100 000 francs de dommages et intérêts, ainsi que le mouvement français pour le planning familial qui a obtenu 10 000 francs. Ce sont les peines les plus sévères jamais prononcées en première instance contre les membres d'un commando anti-avortement. Lors de l'audience du tribunal correctionnel de Valenciennes, le procureur avait demandé des peines beaucoup plus légères que celles prononcées par le tribunal afin de ne pas faire des prévenus des martyrs. Bien entendu, l'avocat de la défense a immédiatement fait appel à ce jugement qu'il estime très sévère, beaucoup plus que les réquisitions du procureur. Pour sa part, l'avocate de l'Union des femmes françaises, l'une des parties civiles, n'est pas étonnée par cette décision du tribunal, dit-elle, du fait de la constance de ses membres du commando. Il est évident qu'ils vont se heurter à l'agacement des juges en violant de manière répétée la loi. Quant à la présidente des Verts, quand la présidente du conseil régional du Pas-de-Calais, la verte Marie-Christine Blandin, appelée comme témoin lors du procès, elle a déclaré « Si on donne raison à ces personnes, un témoin de Jéhovah pourra par exemple débrancher la transfusion sanguine dans un autre établissement, lui aussi au nom de la religion. » En Angleterre, le Labour Party condamné pour sexisme, mais contre les hommes. Le parti travailliste britannique vient donc d'être condamné par un tribunal pour discrimination sexuelle contre les hommes. C'est pour assurer une meilleure représentation aux femmes que le Labour Party avait imaginé il y a 2 ans de réserver la moitié des circonscriptions vacantes et de celles jugées les plus faciles à des candidates. Et pour être sûr que la base ferait le bon choix, le parti avait décidé de ne présenter que des femmes lors de la sélection des futurs candidats dans ces circonscriptions. 34 femmes avaient déjà été élues par les militants de cette façon et 9 autres listes strictement féminines étaient en instance de sélection lorsque le 8 janvier est tombée la sentence du tribunal industriel de Leeds. En vertu de la loi qui assure l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la règle du Labour Party est clairement illégale car elle introduit une discrimination sur la base du sexe, a estimé le président de la Cour. Un homme, bien sûr. Et ce même si l'intention de départ pouvait sembler louable, puisqu'il s'agissait d'augmenter le nombre de parlementaires femmes, actuellement inférieur à 10%. Les plaignants, 2 hommes bien sûr, n'ont pas attaqué leur parti par vengeance, mais pour le principe. La preuve, c'est que ni ces 2 personnes ne souhaiteraient faire invalider les dames qui ont été choisies comme candidates travaillistes à leur place. Tandis que les Labour Party se demandent maintenant s'il convient de faire appel, les Tories traitent leurs rivaux de sexistes qui pratiqueraient le politiquement correct. Reste la triste réalité, il n'y a que 2 ministres femmes au gouvernement, à peine plus que dans le cabinet fantôme travailliste. Quant au Parlement, il est un des moins féminisés d'Europe, la France avec 5% de femmes députées est un des seuls pays à faire pire. Aux États-Unis, les sans-abri meurent de froid et sont repoussés par les grandes villes. La tempête de neige qui se déchaîne sur le nord des États-Unis est épouvantable pour les homeless, ces sans-abri dont le nombre ne cesse d'augmenter. Alors que les rues de New York restent encombrées d'énormes congères, que quelques 5000 tonnes d'ordures ne sont pas ramassées, que certaines artères de Washington n'ont toujours pas été dégagées de la neige, une seconde tempête de neige a continué de recouvrir les homeless. Il est vraisemblable que l'aide fédérale d'urgence aux régions les plus affectées par les intempéries, promise par le président, ne profitera guère aux milliers de pauvres qui, à New York, Washington, notamment, opposent à la neige et à une température qui descend jusqu'à moins 15 degrés, des dérisoires cabanes de plastique, carton et tôles de récupération. Comme si cette offensive venue du ciel ne suffisait pas, les sans-abri doivent faire face à une menace plus redoutable encore, l'ostracisme social et politique. Dans plus de 40 villes aux États-Unis, des lois ont été adoptées ou sont en cours d'élaboration afin de contenir une population de sans-abri estimée à 700 000 personnes. Officiellement, il s'agit de préserver la sécurité et la propreté des centres-villes et d'assurer le libre exercice du commerce, de protéger le tourisme. Les municipalités avouent moins volontiers qu'en poussant vers la périphérie ces populations errantes, elles comptent économiser de précieuses ressources budgétaires. Le fait d'être sans-abri devient aussi insidieusement un délit. Ainsi, à la Nouvelle-Orléans, où il s'agit d'assainir les quartiers français de ces gutter punks. À San Francisco, où la municipalité dispose de 1400 lits pour 15 000 sans-abri. Arrow aussi sur les squatters des parcs. À Austin, au Texas, mais aussi à Seattle et à Boston, on verbalise, on donne des amendes à tour de bras. À Washington, une loi a été adoptée afin de lutter contre l'aumône agressive. Et le maire a même abandonné le projet d'offrir un lit de fortune à chaque homeless. Ça coûterait trop cher, on n'a même pas d'argent pour s'acheter des chasse-neige. New York n'est pas mieux loti, au contraire. Les 38 centres d'accueil hébergent 7000 personnes, mais on pense que plus de 7000 chaque nuit sont dans la rue. Dans les soupes populaires, l'affluence ne cesse de croître. En 1995, plus de 90 000 repas ont été servis quotidiennement, dont 30 000 à des enfants, ce qui n'a pas empêché de conduire encore plus de 50 000 personnes chaque mois. Selon une enquête effectuée dans 29 villes américaines, la demande de repas gratuits a augmenté de 9% en 1994 et cette progression atteint 42% à New York. Or, toutes les associations d'aide aux sans-abri le disent, la situation va s'empirer. Si le Congrès adopte les économies draconiennes proposées par les Républicains, la population des sans-abri devrait connaître une brusque augmentation. Les coupes budgétaires prévues dans l'aide sociale et l'assurance maladie vont se traduire par une forte baisse des crédits alloués à l'assistance aux familles démunies et aux bons d'alimentation. Plusieurs centaines de milliers de personnes risquent ainsi d'être précipitées au-delà de la pauvreté. En Algérie, une pétition lancée au début janvier par plusieurs associations féministes qui a recueilli en moins d'une semaine dans la seule ville d'Alger quelques 560 signatures conteste l'adoption le 12 décembre par le Conseil national de transition, parlement désigné par le pouvoir, d'un projet gouvernemental approuvant avec réserve la Convention de l'ONU sur les femmes jugées discriminatoires. En Tunisie, l'avocate Alia Chamari a porté plainte contre X le 10 janvier à Tunis auprès du procureur de la République pour abus de pouvoir, vol et violences légères. Lassée de la surveillance policière incessante dont elle fait l'objet, Madame Chamari, déjà privée de passeport, avait décidé de prendre en photo ses trois anges gardiens qui n'hésitent pas, assure-t-elle, à la suivre jusque dans le pétoir. Au sortir du tribunal, ces derniers ont alors brutalisé l'avocate, lui arrachant son appareil photo avant de prendre la fuite. Le président brésilien hostile à la vasectomie. Le président social-démocrate Cardoso a mis son veto à l'article d'une loi sur le planning familial légalisant la stérilisation par ligature des trompes chez les femmes et la vasectomie volontaire chez les hommes. Il affirme que ces méthodes de stérilisation représentent une claire mutilation de la personne si elles étaient faites sans recommandation médicale. Actuellement, 27% des femmes en âge de procréer ont recours à la ligature des trompes selon le ministère de la Santé. Explosion dans la centrale nucléaire de Bugey, dans la région de l'Ain. Une explosion suivie d'un incendie s'est produite mardi matin dans un transformateur électrique dans la partie non nucléaire de la centrale française de Bugey, qui est située à 80 km de Genève. L'incendie a fait 2 blessés par brûlure qui sont à l'hôpital. Cet incident, selon les responsables de la centrale, n'a eu aucune conséquence sur l'environnement, car le transformateur contenait de l'huile minérale et non du pyrolène. On ne parle bien sûr pas de radioactivité. Un incident similaire avait eu lieu le 25 octobre, qui n'avait pas fait de blessés et donc qui n'avait pas mérité aucun commentaire. En en Suisse, ouverture du congrès des femmes. Tous les 25 ans, c'est un rituel. Les femmes suisses se donnent rendez-vous. Plus de 2000 participantes sont attendues à partir de vendredi à Berne. L'assurance maternité constituera l'enjeu principal de ce congrès des femmes, mais il semble qu'un accord n'arrivera pas à se dessiner. Entre le premier congrès des femmes organisé à Genève il y a 100 ans et ce cinquième congrès qui s'ouvre vendredi, la cause des femmes a beaucoup avancé, mais il y a toujours le problème de l'assurance maternité. Présidente de ce cinquième congrès, la conseillère nationale radicale vaudoise Christiane Lengberger regrette que les femmes n'aient pas pu se mettre d'accord sur le projet commun d'assurance maternité. Le problème du litige, c'est à qui donner cette assurance, seulement aux travailleuses ou également aux femmes au foyer. Si les femmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un projet commun, sur ce point d'assurance maternité, ce congrès, placé sous le slogan « L'avenir au féminin », devrait néanmoins se dérouler dans une atmosphère plus paisible que le dernier en 1975. À l'époque, un groupe de féministes particulièrement engagés avait en effet mis sur pied un contre-congrès prônant la ségrégation plutôt que le partenariat avec les hommes et réclamant surtout l'avortement libre et gratuit. Nous allons aborder des thèmes très différents de manière à répondre aux intérêts d'un maximum de femmes, fait remarquer Christiane Lengberger. Pas moins de 80 ateliers seront ainsi ouverts aux participantes sur 4 thèmes principaux, comme la place et la responsabilité de la Suisse dans le monde, les nouvelles formes de vie et de travail, la sécurité sociale ou encore une société sans violence. Bien sûr, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de discussion sur la question de l'avortement. À noter que le congrès s'ouvrira vendredi en présence de la conseillère fédérale Ruth Dreyfus et de la ministre italienne des Affaires étrangères Susanna Agnelli. Voilà. Dans le canton de Vaud, le gouvernement propose des économies sur le dos des femmes les plus pauvres. Dans le cadre de son projet de restructuration Orchidée 2, le Conseil d'État prévoit ainsi de supprimer le recouvrement des pensions alimentaires en cas de non-paiement par le conjoint, ce qui est le cas dans 80% des cas. Cette mesure qui libérerait quelques millions de francs frapperait très durement des femmes qui devraient alors s'adresser à l'assistance. La coordination interassociation contre Orchidée 2 de la fonction publique et Parapublique vaudoise, qui regroupe 39 associations syndicats, interpelle les députés à propos de ce budget qui devra être discuté au Grand Conseil. Le projet de budget comprend donc la baisse de l'aide sociale vaudoise, le remplacement du bouton d'or par le revenu minimum de réinsertion et la suppression des avances sur les pensions alimentaires. Le communiqué de la coordination nous dit « Il est évident que l'acceptation par le Grand Conseil d'un tel budget et implicitement de la planification financière qui l'accompagne susciterait une réaction forte de la coordination des associations professionnelles et syndicales. Il appartiendra donc à l'Assemblée générale du personnel qui se tiendra ce mercredi 17 janvier à 20h au restaurant de l'Université de Lausanne à Dorigny de décider démocratiquement des formes concrètes de cette réaction. » Donc si vous êtes dans la région vaudoise, vous pouvez aller à cette coordination. Une femme bosniaque est acceptée comme réfugiée mais condamnée pour entrée clandestine. Sans faire traîner la procédure, les autorités fédérales ont pour une fois accordé dans les plus brefs délais l'asile à une femme bosniaque âgée de 66 ans. Elle avait échappé de justesse aux assassins serbes de son mari. Outre son de cloche du côté des autorités turgoviennes qui, en l'absence de l'incriminé, tiennent absolument à la condamner à une légère peine de prison assortie d'une amende pour entrée illégale en Suisse. Malgré que la loi ne permette pas de conclure à la culpabilité de cette personne, les autorités concernées, le canton de Turgovie, ont pour principe de condamner sévèrement les entrées illégales en Suisse, un principe que la plupart des autres cantons n'appliquent plus. En effet, ceux-ci estiment qu'il y a des choses plus importantes à faire que de sanctionner des infractions aux dispositions en vigueur sur l'entrée dans le pays. C'est pourquoi ils renoncent, dans la pratique, à punir les entrées illégales, comme le montre une étude de Marie-Pierre Campiche. Selon les œuvres d'entraide, seuls les cantons d'Argovie, de Chafouz, des Grisons et de Turgovie ont la réputation d'appliquer ce type de sanctions à la lettre. D'autres cantons frontières, comme Bâle ou Genève, rejettent cette ligne dure et n'estiment même plus nécessaire d'ouvrir une procédure. À Neuchâtel, le conseil général de la ville de Neuchâtel a inscrit deux innovations progressistes dans le règlement de sa caisse de pension. Les concubins auront droit à la pension de survivants au même titre que les partenaires mariés. En outre, les possibilités de retraite à la carte sont élargies. Berne vient de publier un guide pour l'égalité du masculin et du féminin en allemand. Ce lundi, la chancellerie fédérale publie donc un guide pour la mise à égalité des appellations masculines et féminines dans la langue allemande. Celle-ci, pour n'en citer qu'une petite poignée, qu'Ombudsmann devrait cohabiter avec Ombudsfrau, que Bankier avec Bankierin et même Clown avec Clownin. Mais la chancellerie apprend également qu'aucun guide du même type n'est en préparation pour les deux autres langues officielles, l'italien et le français. J'aimerais également signaler qu'en guise du prélude au 5e congrès des femmes, une exposition de photos s'est ouverte déjà samedi au centre Pasquart à Bienne. Christiane Langberger, présidente du congrès, a remis à cette occasion les prix des photographies féminines à la fribourgeoise Véronique Marty et à la zurichoise Ina-Christine Müller. Le concours de photos féminines, organisé pour la première fois en prévision de ce congrès, a eu un grand écho puisqu'il a réuni plus de 140 photographes provenant de Suisse, d'Italie, de France, d'Amérique du Sud qui ont participé. Le thème du concours, images de femmes, images d'hommes, vues par un objectif féminin. Le premier prix donc a été décerné à la fribourgeoise Véronique Marty pour son reportage sur les naissances subaquatiques. Quant au second prix, il est allé à la zurichoise Ina-Christine Müller pour sa série de photos intitulée « Quel type de femme êtes-vous ?». La lauréate se moque des idéaux de beauté imposés et invite les femmes à se libérer des diktats extérieurs pour définir elles-mêmes sa propre féminité. Les organisatrices ont encore choisi les travaux de 12 autres participantes au concours. Les œuvres sélectionnées sont exposées au photoforum du centre Pasquart à Bienne jusqu'au 11 février. Et pour terminer, j'aimerais vous donner quelques petits rendez-vous. Premièrement, manifestation ce samedi à 14h30 pour protester contre les inculpations qui ont suivi la manifestation contre le défilé militaire en novembre. Plusieurs jeunes qui avaient été arrêtés à la suite des échauffourées en ville ont été inculpés et certains maintenus plusieurs jours en prison. Une manifestation est donc appelée. Elle débute à 14h30 ce samedi. Également une manifestation prévue pour appuyer le refus des mines antipersonnelles. Cette manifestation aura lieu donc qui est organisée par la campagne suisse contre les mines antipersonnelles et organisée pendant que les Nations Unies est organisée pendant la conférence internationale sur les mines antipersonnelles qui a lieu à l'ONU. Elisabeth Reuss-Ducret, coordinatrice de la campagne, a donc décrit cette action. Il s'agit d'aller verser devant l'ONU deux tas de cailloux. Un tas qui montrera le nombre de mines désamorcées chaque jour à travers le monde, c'est-à-dire 300, et un autre tas de 9000 cailloux qui montrera celles qui sont toujours posées. À noter que Gérard Ramsayer, chef de la police, avait interdit cette manifestation pour des motifs de sécurité. Il est revenu sur cette interdiction. Cette manifestation aura donc lieu vendredi devant la place des Nations Unies. C'est donc le dernier jour de la conférence contre les mines personnelles. Et puis, également, vous annoncez une fête. Le Centre des loisirs des Astères s'est réorganisé et vous invite à la fête pour inaugurer sa nouvelle surface au rez-de-chaussée. Ça puis aussi pour fêter ses 25 années que le Centre des loisirs des Astères existe. Cette fête durera du 23 janvier au 27 et il y a un buffet qui est organisé le mercredi 24 janvier à 19h pour les anciens et les actifs du centre. Voilà. Pour terminer, juste vous signaler deux publications. L'Office fédéral de la statistique vient de sortir une brochure à partir du recensement fédéral sur le thème de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui est disponible au service des publications de l'Office fédéral de la statistique. Et vous dire aussi que le numéro 8 de la petit journal La Poilue de l'hiver 1995 vient de sortir, toujours aussi rigolo, toujours aussi joli. Vous pouvez vous le procurer. Je ne sais pas, au fait, comment vous pouvez vous le procurer Je vous le dirai la prochaine fois. Voilà. Marjolaine prépare son cœur et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Restez à l'écoute sur 93.8 MHz. It looks. Don't you think it looks a lot like rain? He said, isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman? She said, it goes. That's the way it goes. It goes that way. He said, isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman? She said, it's hard. It's just hard. It's just kind of hard to say. He said, isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman? She said, it takes. It takes one. Takes one, too. Takes one to know one. He said, isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman? She said it to know. She said it to no one. Isn't it? Isn't it just? Isn't it just like a woman?
I had this dream, and in it, I wake up in this small house somewhere in the tropics.
I know you're asleep. Yeah, it's kind of noisy here. It's kind of a party going on. Why don't you come down? You'd really have a good time. You should really come down. Listen, just put your shoes on and call a taxi and come down. really have fun. No, he's not here. Well, maybe he's here, maybe he's not here. What's the difference? Come on, just put your coat on and put your shoes on and call a taxi and come down. Yeah, I know, it's Brooklyn. You're $35, but it's, yeah, it's two nights, you know. Listen, I'm sure I could get you in.